Le programme reste-t-il encore quelqu'un? Dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 9e, deuxième livre de Samuel, chapitre 9e à partir du verset 1er. David dit ou demanda, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Tsiba ?» Il répondit, « Ton serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ?» Et Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. » Le roi lui dit, « Où est-il ? » Et Tsiba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. » Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar, et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth, elle répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Et nous poursuivrons notre lecture au temps venu. C'est le verset premier qui va retenir toute notre attention. David demanda, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Jonathan, fils du roi Saül, le prince héritier, dit à David dans une période, quand tu accéderas au trône, ce qui ne manquera pas de se produire, voudras-tu faire grâce à ma famille? Il savait, Jonathan, lui, le prince héritier, le futur roi qui ne le serait pas. Et Saül même, étant roi, savait aussi qu'un jour, il serait mis de côté par Dieu et que ce serait David, le futur roi. Dans cette époque, peut-être encore dans cette époque, dans notre époque, tous ceux qui étaient de la dynastie, eh bien, étaient massacrés. Il ne restait personne. Et pourquoi David dit-il à cause de Jonathan? Entre David et Jonathan, il s'est passé quelque chose de très fort spirituellement. La Bible nous dit « L'ami aime en tout temps, et dans l'épreuve, dans le malheur, il se montre un frère. » Nous formons une grande famille spirituelle. Nous avons beaucoup de joie, beaucoup d'allégresse. Et puis il arrive parfois qu'il y a des liens qui se font encore plus forts sur le plan spirituel. Et la Bible dit bien, je lui fasse du bien à cause de Jonathan. Jonathan avait été impressionné par la victoire de David sur le Goliath, le géant des Philistins. David devait avoir environ 17-18 ans, et vous vous souvenez de cette victoire. Et la Bible nous montre que dès lors, l'âme de Jonathan fut attaché à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Jonathan, c'est lui qui l'aime en lui-même, il l'aime comme lui-même, et il l'aime pour lui-même. Et la Bible nous dit que Jonathan fit alliance avec la maison de David. Et à un autre endroit, Jonathan protesta encore auprès de David son affection pour lui, car il l'aimait comme son âme. Et la Bible nous dit, les deux amis s'embrassèrent, 1 Samuel chapitre 20e verset 41e, et pleurèrent ensemble. Ces deux hommes viennent de vivre quelque chose de terrible. Ils s'embrassent, ils pleurent ensemble, et David sortit fondant en larmes, et Jonathan dit à David, « Va en paix, maintenant que nous avons juré entre toi et moi, entre ma postérité et ma postérité. » Des liens spirituels forts. Quelque chose d'extraordinaire s'est lié. Et dans le cœur de David, c'est resté marqué. C'est resté marqué. Je me souviens, en 1964, j'étais ce que j'étais avant de connaître Dieu, mais je suis devenu ce que je suis par la grâce de Dieu. Et je venais de me convertir, et puis sur l'autoroute de l'Ouest gagnant Paris, j'ai eu un grave accident de voiture, et puis je me suis retrouvé à l'hôpital de Garches. Je venais de quitter, il y avait quelque temps, mes amis qui étaient les gens que je fréquentais, qui me fréquentaient. Puis ce qui m'a réjoui, c'est que des frères et sœurs que je venais de connaître ont fait près de 300 kilomètres aller-retour. Et comme j'étais un grand blessé, les minutes étaient comptées. Et on m'a simplement dit qu'on m'aimait et qu'on priait pour moi. Ça que ça a marqué. 300 kilomètres pour rester quelques minutes auprès de moi, me disant « vous aime » et « on prie pour vous ». Personne des personnes que je fréquentais n'est venu. Informé peut-être de la même manière. Nos liens spirituels sont forts. Nous vivons des choses fortes et chacun pourrait très certainement rendre son témoignage à une période de ma vie, dans certaines circonstances, des liens spirituels ont été forts. Et David, quelque temps après, la Bible ne nous le dit pas, mais il était déjà bien avancé, il avait la royauté, il a réfléchi. Est-ce l'Esprit de Dieu qui a mis cela dans son cœur? Puis tout à coup, il s'est posé la question, il a demandé, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? C'était ça sa préoccupation. Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Ziba. Quand il entendit la voix du roi lui poser la question, je ne sais pas quelle fut sa réaction. Mais il avait un secret dans son cœur que personne normalement ne connaissait pas, et qu'allait-il dire? Il nous arrive d'avoir des secrets. Je tairai le nom du pays, mais nous parlions avec le directeur général de l'action missionnaire, le pasteur Fred. Il a travaillé avec nous et son épouse aussi pendant 12 ans. Et Dieu soit béni, des liens aussi ont été tissés. Et je lui dis, il faudrait aller sur ce champ missionnaire. Il me dit, on n'a pas été invité. Et je lui dis, écoute, est-ce que tu peux envoyer? C'est difficile de donner des conseils au directeur général, même s'il a été travaillant dans l'œuvre de Dieu comme stagiaire, mais ayant grandi, étant ce qu'il est devenu par la grâce de Dieu. Et puis le jour J est arrivé. Et nous nous sommes retrouvés devant l'Église nationale. Et nous avions bien des choses. Et puis au bout d'un certain temps, il y avait quelque chose que personne, bien sûr nos frères africains connaissaient, mais le directeur général ne connaissait pas. Et j'avais un secret dans mon cœur depuis 40 ans. Et ce secret, je ne l'avais pas dit. Et les frères africains ne savaient pas que j'avais un secret depuis 40 ans. Et puis au bout d'un certain moment, quand tout le monde a bien fait le tour à la palabre africaine, en quelques minutes, la situation s'est débloquée parce que le secret de 40 ans a jailli de mon cœur. Et ça nous a permis de renouer une communion intense. Et aussi aujourd'hui, le directeur général n'est plus le directeur, mais il est le missionnaire sur ce champ. Et le directeur général ne savait même pas. Depuis de longues années, nous avions voyagé ensemble, mais je n'avais jamais rien dit. Le jour J est arrivé. Ziba, il a un secret. Il sait qu'il reste un fils de Jonathan. Il le sait, mais qui prouve qu'il ne va pas être assassiné? Il le sait. Que va-t-il dire? La Bible nous répond, le secret sortit de son cœur et lui dit, il y a encore un fils de Jonathan. Et il ajoute, perclus des pieds. Et le roi ne lui demande pas, mais pourquoi son infirmité? Que s'est-il passé? Absolument pas. Mais il répond simplement, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. Il y a encore un fils. Et Ziba s'est dit, c'est terminé. Je viens de dévoiler ce secret. Il va maintenant être tué. Mais la Bible nous montre ce que j'ai expliqué, les liens entre eux, Jonathan et David. Et quand il pose cette question, c'est à cause de Jonathan, maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar, qui signifie lieu désertique, sans pâturage, lieu de désolation, lieu obscur et aride de la Palestine. Il était dans sa maison, dans ce lieu. C'est difficile de se poser la question, qu'a-t-il ressenti Mephibosheth quand les soldats du roi de David ont frappé à la porte, et lui avec son handicap, puisqu'il avait les pieds paralysés, il a vu les soldats, il a dû se dire, c'est terminé pour moi. Ce sont mes dernières heures. Les soldats l'ont conduit devant David. Et David va lui dire, tu es Mephibosheth, voici ton serviteur. Et tout de suite, cette parole vient, ne crains point, je veux te faire du bien, à cause de Jonathan, ton père. Et lui dit maintenant, je vais te rendre pour toujours les terres de ton grand-père, de ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Tu mangeras toujours à ma table. Et c'est les serviteurs de Ziba qui vont faire tout le travail de toutes les terres. Quelle grâce! Je ne ferai aucune marche pour imiter, par respect, mais cet homme handicapé, chaque jour, ou ayant un handicap, chaque jour va venir à la table du roi. Je trouve ça formidable, merveilleux. Chaque jour, à la table royale, avec tout ce staff, l'Esprit de Dieu a-t-il rappelé à David ça? Il y a des moments de solitude où l'Esprit de Dieu le permet, nous amène à la réflexion intérieurement. Nous, pas vous, nous, je parle d'une manière générale, il faut du bruit partout. Nous allons dans les grands centres commerciaux, il faut du bruit. Du bruit partout, on ne peut pas vivre sans bruit. C'est plus que c'est que le calme. Il faut du bruit. Même les chrétiens, parfois, ils aiment le bruit. Il faut crier dans le micro. C'est là qu'il y a la puissance. Alors, si je crois que la puissance est dans le micro, je passerai plus de temps à prier. Hein. Nos frères et sœurs qui ont compris en disant « Quand nous sommes arrivés ici, nous avons vu qu'il n'y avait pas trop de bruit. Ça nous a déstabilisés, mais ils disent maintenant « Nous sommes déstabilisés quand nous voyons du bruit. » Parce que faire du bruit, ça ne dit pas toujours que la puissance de Dieu est là. Bien-aimés dans la foi, nous avons besoin du silence parfois devant Dieu. Et notre âme a besoin du silence devant Dieu. Nous avons besoin d'entendre la voix de l'Esprit, ne crains point. Je suis avec toi. Ce matin, nous sommes venus à la table royale, à la table du Fils de Dieu, de notre grand souverain sacrificateur. C'est la croix qui nous réunit, pas la croix par elle-même, mais ce que Jésus a accompli sur la croix du calvaire. Et ça, c'est important. Bien-aimé dans la foi. Une histoire qui se termine bien. Un homme qui est caché dans la maison de Makir, lieu de désolation, à Lodebar. Personne ne devait savoir le secret. Et tout à coup se retrouve à la table royale. Est-ce que nous ne sommes pas devenus des invalides spirituels? Pourquoi? Parce que quand nous faisons notre généalogie, nous avons tous le même père et tous la même mère. En faisant. C'est-à-dire Adam et Ève. De la même manière, ils se sont révoltés, ils ont péché contre Dieu. Et quand Dieu le soir fit entendre sa voix, la Bible dit qu'ils étaient cachés. Je me suis caché, j'ai eu peur. Et dans leur chute, ils ont entraîné l'humanité entière. Me diriez-vous, mais pourquoi Mephibosheth est devenu comme cela, dans ses pieds, perclus, paralysés? Parce que la Bible nous dit qu'à l'âge de 5 ans, je crois, il avait 5 ans. C'est la Bible qui le révèle. Et sa nourrice, quand elle a appris la mort du roi Saül et de Jonathan au combat, elle s'est enfuie. Et dans la course, dans sa fuite, Mephibosheth est tombé et il est resté infirme pour toute sa vie. Voilà pourquoi je dis des invalides spirituels, dans le sens que nous avons tous séquelles. Et que dans notre marche, nous pouvons dire aussi que nous habitons peut-être une belle demeure, quelle qu'elle soit, peu importe, une demeure. Mais qu'en réalité, c'est Lodebar, c'est le lieu désertique, sans pâturage, lieu de désolation, lieu obscur et aride, c'est-à-dire intérieurement dans notre âme, misère spirituelle, à cause de nos péchés, à cause de notre rébellion, à cause de ce que nous sommes tombés dans les mains de toutes sortes de choses. Et intérieurement, nous nous sentons très mal. Mais grâce soit rendue. non point à cause de Jonathan, mais à cause de l'amour de Dieu. La Bible dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » La Bible dit que Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable à cause de l'amour de Dieu, à cause de l'amour de Jésus-Christ. Nous avons été, nous le sommes, au bénéfice de l'amour de Dieu, de l'amour de Jésus-Christ. Bien-aimés dans la foi, continuons à frapper à la maison de Makir, à l'eau de mar, avec délicatesse, mais parlons de l'amour de Jésus-Christ. Parlons du Fils éternel qui est venu porter toute notre rébellion. Tous les jeudis soirs, il y a Nouveau Départ, l'association qui va au centre-ville, qui distribue les prospectus, les casse-croûtes pour ces gars de la rue avec leurs chiens que vous rencontrez. Vous les voyez là avec leur tout ça dehors. Et puis quelqu'un un jour a eu à cœur de descendre. Ça, quand on m'a demandé ce que j'en pensais, ça ne me créait aucun problème, parce qu'il y avait peut-être 30 ans, des frères allaient au centre-ville donner aussi leur propre casse-croûte, parler de Jésus. Et nous servions plus de 10 000 petits déjeuners dans l'espace de 10 mois. Là, les jeunes vont vers les toxicomanes, vers les sans-abri, vers ceux et ceux que vous trouvez au centre-ville avec leurs chiens, quelle que soit la couleur de leur peau, quelle que soit leur identité, ils vont. Et un frère me disait, vendredi matin, je demandais si cela s'était bien passé. On dit oui, nous avons eu tant de personnes, tant de jeunes. Nous avons distribué, nous avons parlé. Et puis le soir, j'ai laissé un homme qui arrivait de tel endroit. On lui a donné le café, un carton. Il s'est mis sur un porche pour dormir. Certes, il était un peu alcoolisé. Puis nous nous sommes quittés. Et puis il dit vers 1 heure le matin, ce frère, j'ai été réveillé. Je suis un fardeau pour lui. Il dit, j'ai prié jusqu'à 4 heures le matin. Et ensuite, dans les heures qui ont suivi, je suis allé au centre-ville et j'ai retrouvé cet homme. Il dit, je ne sais pas ce qui s'est passé entre 1 heure et 4 heures, mais il s'est passé quelque chose. Il ne savait pas ce qui s'était passé. C'est que le frère, de 1 heure à 4 heures, a prié le Seigneur. Bien-aimés dans la foi, nous sommes dans un combat spirituel. Il nous faut continuer à intercéder au trône de la grâce de Dieu. Quand je rencontre les étudiants de l'Institut théologique biblique, je leur demande s'ils ont leur diplôme en genouxologie. Alors ils me disent, qu'est-ce que c'est comme diplôme la genouxologie ? Je leur dis, c'est savoir se mettre à genoux et prier. Et ensuite, je leur dis, est-ce que vous avez le diplôme de la genouxologie ? Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est aussi savoir prier, jeûner. C'est tous ces diplômes-là qu'il nous faut. Vous comprenez ? C'est tous ces diplômes. Je m'imagine rentrer dans le bureau de David. Un jour, j'ai eu le privilège, c'était à Bangui, je suis rentré dans le bureau du chef de l'État avec plusieurs ministres, visite officielle. Un bureau qui faisait au moins 200 mètres carrés. Plus de 200 mètres carrés. J'étais impressionné, hein. Quand vous entrez dans le bureau du roi, du chef ou de la reine, et j'aurais voulu rentrer dans le bureau de David, et j'aurais regardé, et je me suis dit, tiens, il a mis la corne, celle qui la ointe. M'aurait dit, voyez-vous, ça, c'est la corne par laquelle j'ai été oint. Avec le plus grand respect, j'aurais dit, mon Seigneur, mon roi, c'est tout ce qu'il reste que la corne. S'il ne nous reste que la corne, c'est plus grand chose. Il nous faut plus que la corne. Nous avons été baptisés de l'Esprit il y a des décennies, peut-être pour certains. Peut-être pendant le culte de l'adoration. Nous avons reçu des grâces, mais que ce ne soit pas seulement qu'un souvenir. Que ça ne soit pas seulement qu'un souvenir. Nous avons reçu un appel de Dieu. Tous. Et d'autres ont reçu quelque chose de plus. Qu'il ne nous reste plus qu'une corne. La Bible dit que l'Esprit saisit David dans les temps et dans le futur est constant. Bien sûr, vous passerez des moments difficiles, des temps difficiles. Jésus n'a-t-il eu que des temps faciles ? Absolument pas. Mais bien-aimés, allons frapper. Et ce matin, par le moyen de la parole de Dieu, avec l'aide de l'Esprit et l'Esprit sans moi, frappe à la porte de votre cœur. Et il vous dit, c'est moi. Ne crains rien. Je t'aime. Et quand Dieu dit qu'il nous aime, c'est qu'il ne veut pas nous faire de mal. Il veut nous faire du bien. Il connaît notre vie. Il connaît nos chutes. Il connaît les séquelles du jardin d'Éden, de la chute d'Adam et Ève. Il connaît notre parcours. Mais que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Il connaît. Je termine dans l'Église. Reste-t-il encore quelqu'un pour que je lui fasse du bien à cause de Jésus-Christ ? Je me souviens, pour ma part, quand je me suis converti, je vivais à cette époque dans un hôtel et j'avais ma chambre. J'étais un anticlérical. Et ce soir-là, tout un cheminement s'est fait. Et en rentrant dans ma chambre, il y avait une lettre qui m'attendait spirituellement. Et j'ai ressenti une pureté. une sainteté dans ce lieu que je ne pouvais pas définir. Et en moi-même, j'ai réalisé une impureté en moi. J'ai réalisé que j'étais sale. Jamais je n'oublierai. Ça a duré plus de 2 heures où j'ai confessé mes péchés les uns après les autres. J'ai pleuré pendant plus de 2 heures. Mais quand je me suis relevé, j'étais un homme régénéré. Nous avions vécu quelque chose de fort avec Dieu. Dieu avait vécu quelque chose de fort avec moi. L'Esprit de Dieu avait vécu quelque chose de fort avec moi. Jamais je pourrais oublier ce moment fort avec Dieu. Jamais je pourrais oublier ce moment fort. Jamais je pourrais oublier quand je suis venu à l'église, m'a mis un fauteuil, je venais d'avoir 6 fractures, comme je vous l'ai dit. Et il y a eu un don spirituel. Et ce don spirituel, c'était un membre de ma famille. C'était sur l'appel de Dieu. Alors c'était tout ce qu'il fallait dire, sauf ça. Et en plus, un membre de votre famille, ça passait très mal. Et je vois encore le pasteur, on s'est salué. Il m'a dit, tu vas bien ? Je lui ai dit, oui, je vais bien. Je suis parti. Mais correctement, bien sûr. Je dois vous dire que j'étais pas très facile à prendre, là. Hein. Et puis, juste avant la réunion d'évangélisation, je me suis mis à genoux devant Dieu. Et j'ai dit, j'accepte de te servir. Le parcours n'a pas toujours été facile. Peut-être que dans votre vie spirituelle, ça n'a pas toujours été facile. Quand nous sommes partis le dimanche, nous remontions pour nos vacances. Pendant le voyage, un appel téléphonique, répondons, un tel est décédé, un homme de 40 ans. Nous arrivons à tel endroit, je lis un mail, Benjamin, je crois, qui a à peine 2 ans. Nous avions fait le service funèbre d'un de ses petits frères mort-né, avant. Une voiture est passée sur tout son corps. Je me suis dit, il est mort. Et puis, l'hôpital a bien mentionné que la voiture est passée sur l'enfant. Pas vous expliquer tous les détails, vous l'avez vu le petit là. Cerveau, absolument rien. Poumon, poitrine, absolument rien. Fracture, fémur. Il lui reste peut-être 3 semaines. Fémur jusqu'à cheville. Une fracture. Que Dieu soit béni. Vous restez la nuit constamment pour prendre les nouvelles. Parce que vous aimez le corps de Christ. Parce que vous aimez l'Église. Parce que vous aimez, parce que nous aimons. Et nous nous aimons les uns les autres. Reste-t-il encore quelqu'un? Quand Paul écrit à Timothée, l'homme maturité, souviens-toi de Jésus-Christ. Nous avons besoin de nous souvenir de Jésus. Que sa marche n'a pas été facile. Malmené parfois par les siens, malmené par sa famille, repris par ses disciples, rejeté par le clergé juif, rejeté par la population, mais il est resté le même parce qu'il venait pour nous sauver. Reste-t-il l'Esprit de Dieu frappe à la porte de votre cœur et il veut parler avec vous, avoir une intimité profonde. Et lui, il saura vous parler comme il le faut. Il saura toucher votre cœur comme il le faut. Et vous serez peut-être encore pleuré avec le ressuscité. Que Dieu vous bénisse, vous donne sa grâce et sa bénédiction. Reste-t-il encore quelqu'un de la maison du Fils de Dieu pour que je lui fasse du bien à cause de Jésus? Nous prions le Seigneur. Gloire à l'agneau de Dieu. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Gloire à l'agneau de Dieu. Sois béni, Seigneur. Gloire à l'agneau de Dieu. Sois béni. Regard de ton Fils bien-aimé, notre Sauveur, Jésus, est sur nous. Merci pour ta parole. Merci pour le Saint-Esprit. Merci de nous avoir fait sortir de nos villes Lodebar, Seigneur. Et nous te prions de continuer à faire ton œuvre. Fais grâce ce matin qu'il y ait des retours à la croix du calvaire. Que ton immense amour se manifeste encore. Qu'il y ait des retours de nos cœurs vers toi. Nous te remercions parce que toi seul connais notre besoin. Remercions pour ta délicatesse et que ton nom soit glorifié. Étends ta main, la main de ton Fils, sur les corps malades, sur l'âme blessée. Guéris, renouvelle, que chacun puisse être béni. Et nous le sommes par celui qui est béni éternellement. Nous te louons de tout notre cœur. Bénis aussi les enfants. Merci. Et à ton nom soit la gloire. Amen. Amen.